60 Giborim Sadivra, mais Giborim Israël. On va lire les deux versets en même temps. Kula machuz echerev velum de milchama ish harbo al yerecho mi pachad balelot, c'est ça? Ok. Alors. Traduisons. Ine mitato. Voici le lit Sheli Shlomo de Shlomo Shishim Giborim 60. Brave ou fort, Saviv là, saut autour de lui, Migibori Israël, parmi les forts d'Israël. Kula Machuz et Cherev, tous Achuz, saisissant Cherev, leur glaive, Melum de Milchama, entraîné à la guerre. Ish harbo al yerecho, chacun son glaive à la hanche, mi pachad balelot, de peur des nuits. Ça c'est la traduction. Rashi traduit, ine mitato sheli Shlomo, puisqu'on a un principe qui est dit par la Gemara, que chaque fois qu'on parle de Shlomo, il s'agit de Melech Shea Shalom Shelo, c'est-à-dire Kadosh Baruch Hu. Il dit voici le sanctuaire d'Akadosh Baruch Hu, là où il repose. Shishim Giborim Savivla, dit Shishim Giborim, ce ne sont pas là des hommes forts ou faibles, c'est les 600 000, c'est-à-dire 60 fois 10 000, Saviv là, qui l'entoure, Migibori Israël, des forts d'Israël. Qui c'est ces forts d'Israël? Kula Machuz et Cherev. Melum de Milchama. Il s'agit des Kohanim. Qu'est-ce que c'est Melum de Milchama? Milchamta Shel Torah. Mot à mot, la guerre de la Torah. Vechen a Kohanim a Sovevimota. Melum de Seder Avodatam. Ils sont entraînés à leur service. Alors, de quel glaive il s'agit? Kula machuz echerev ishcharbo al yerecho. Kli zaino, quel est le glaive de celui qui étudie la Torah? Masoret vesimanim shema milim al yadam et agirsa vamesora shelo tishkach. Notamment, la mesora, c'est-à-dire la transmission de la Torah écrite telle qu'elle doit être, le simanin et les signes, qui sont ceux avec lesquels on se rappelle la Torah orale, pour qu'on ne l'oublie pas. Mi pachad balelot, Rashi dit, de peur que dans la galoute viennent les tsarot, viennent les difficultés, et qu'à cause de ça, on oublie la Torah. Voici comment Rashi traduit le verset. C'est la suite du verset d'avant, où on parlait du peuple juif, Mizot olam min hamidbar, que timrot hashan, kuteret mor ulvona mikol avkat rochel, que apparaît un peuple qui vient du désert. Alors on parle du Mishkan, du sanctuaire, qui s'appelle Mitato Sheli Shlomo, là où réside Akadosh Baruch Hu. Tout de suite, le Midrash dit, il ne faut pas lire Mitato. le lit, la couche, il faut lire Matato, c'est-à-dire la tribu. Donc il s'agit ici des Kohanim et les Lévim, qui font partie de la même tribu, celle de Lévi, et qui, eux, assurent le service d'abord dans le désert au El Moed et ensuite en Eretz Israël dans le Beth Amikdash. Et ceux-là, ils sont entourés des Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte. C'est pour ça qu'on dit Shishim Giborim, 600 000. Mais Giboré Israël, ça veut dire ceux qui sont entraînés à l'étude de la Torah. Il y a marqué Giborim. Gibor. 60 milliards. Gevura. De la force. Mais là, je suis là pour un petit peu autrement, mais Gibor et Israël. Pourquoi? Parce qu'il traduit comme ça. C'est quoi Shishim Giborim et Savivla, mi Gibor et Israël? C'est les 60 lettres qui existe dans le Birkat Kohanim. Shishim Giborim, mi Gibori Israël, donc lui, le Midrash traduit, Shem Gabrim et Israël, qui renforce le peuple juif. Kula Machuze Cherev. C'est quoi ce Cherev? C'est quoi le glaive? C'est les trois brachot qui sont dans le Birkat Kohanim. Meloum de Milchama, entraîné à la guerre, que les brachot qui sont dans le Birkat Kohanim, attention, ici il y a marqué, chez Nilchamim bechol mine pour aniot shebaolam, qui ont la force de vaincre ou de lutter contre tous les pour aniot, c'est-à-dire les événements malheureux qui puissent arriver dans le monde. Ish harbo al yerecho mipachad balelot. C'est quoi? Ce qui est écrit dans la Gemara, tout le monde connaît ça. C'est que celui qui a fait un rêve, qu'il interprète d'une façon qui n'est pas agréable, Yishma Birkat Kohanim, il écoute le Birkat Kohanim, Venada Varmaziko, et les dégâts peuvent être atténués. Comme ça le Midrash traduit. Tout ça parce qu'il y a marqué Mitato, et il traduit Mitato pas en tant que lit, mais Milachon Maté, Maté qui veut dire la tribu. Nous, on va essayer d'expliquer d'abord quelle est la force de ce Birkat Kohanim. Qu'est-ce que c'est le sens d'une bracha? Pourquoi est-ce que c'est relié ici au El Moed et au Beth Amikdash? Et qu'est-ce que ça veut dire Miparat Balelot? C'est-à-dire que ça préserve contre eux des choses qui ne devraient pas arriver. Il faut savoir une chose. C'est que lorsqu'on parle d'Oel Moed ou de Beth Amikdash, on parle de résidence de la présence divine. Résidence de la présence divine, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. On va essayer de voir comment on peut aborder une chose pareille. Le mot Shrina en hébreu, vient du mot lishkon, résider. Shachen, c'est celui qui réside à côté de moi. C'est un voisin en hébreu. On peut essayer de comprendre que veut dire résider à partir du verset dans Tehillim où il y a marqué c'est marqué la même chose dans le prophète aussi à Shamayim Kissi. On va essayer d'expliquer. Le ciel c'est mon trône. Vaharetz Adom Raglaï. Là où Dieu pose les pieds. La terre, c'est là où Dieu pose les pieds. Qu'est-ce que ça veut dire le trône et qu'est-ce que ça veut dire Adom Raglaï? La façon dont Dieu dirige le monde, c'est ce qu'on appelle le trône. Adom Raglaï, c'est ce qui incite à Kadosh Baruch Hu à le diriger de telle façon ou de telle façon. On peut diriger de façon différente selon là où on se trouve. Ce que nous appelons la résidence d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'on peut percevoir dans un événement la façon dont Akadosh Baruch Hu régit le monde. Selon ce qu'on discerne de sa présence dans cet événement. Lorsqu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu réside, ça veut dire que d'une certaine manière, il me force à le voir. Tout celui qui rentre au Beth Amikdash, il était forcé de se mesurer au fait que la présence divine existe dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'il voyait des choses qui sortaient de l'ordre de l'ordinaire et dont il était obligé d'attribuer l'existence à la présence divine. À partir du moment où nous considérons que Dieu est présent dans la vie, dans ce monde-ci, c'est pour ça qu'on appelle Aretz Adom Raglaï, là où il se tient. Nous sommes obligés de considérer que la façon que nous avons de percevoir cette chose-là, c'est ou la façon dont Dieu va être perçu maintenant. C'est-à-dire qu'il m'oblige en quelque sorte à voir, exactement comme la présence à travers la nuée ou à travers le feu qui était sur l'autel ou à travers toute autre manifestation dont je discernerai moi et je l'attribuerai à la présence divine. Ou alors qu'il veut que je le perçoive, comme ça. C'est-à-dire que l'événement est là. L'histoire qui se déroule est là, ou pour m'imposer cette présence divine, non dire que c'est une privation de liberté, je suis obligé de me mesurer à l'événement. En ça, je reconnais la présence divine. Ou alors pour m'obliger à voir une présence divine là où moi je ne verrai pas. C'est pour ça qu'il est écrit. Quel Deot Hashem, il y a deux choses qui sont entourées de deux noms d'Akadosh Baruch Hu. Une fois marqué quel Deot, Dea, la connaissance, c'est-à-dire que j'ai une perception de ce qui est spirituel. C'est ce qui dit entouré, quel Deot Hashem, les deux noms, ce qui entoure, ça veut dire que par la connaissance on a une perception. Ou alors qu'elle ne camote Hachem. Dans la vengeance. Si je faisais quelque chose de mal et j'étais puni immédiatement, je percevrais aussi une essence divine. Parce que le hasard ne me permet pas d'attribuer la punition à la faute. Ce qui me permet d'attribuer la punition à la faute, c'est la présence divine. De nouveau, il y a ces deux notions. Ou c'est moi qui perçois, ou alors l'événement me force à le percevoir. On va dire autre chose. Ou c'est moi qui fais résider Dieu dans ma vie, ou c'est Dieu qui s'impose. Mais les deux façons, on appelle ça une perception de la Shrina. On va essayer de continuer. Le Kohen est ce qu'on appelle la Avoda, le service au temple. C'est une façon pour nous de faire venir cette Shrina par des actes qui ont un rapport avec elle. Le Kohen amène le sacrifice. Le Kohen fait le Birkat Kohanim. S'il y a un miracle au Bétamigdash, c'est une façon où la présence divine s'impose d'elle-même. On va arriver à la conclusion qui est la plus simple. C'est que la avoda, le culte, le service, on l'appellera comme on voudra, en hébreu s'appelle avoda. Son sens est de donner une présence au divin. C'est pour ça que la tfila, ça s'appelle avoda. Le sens de la tfila, c'est de donner une présence au divin. Celui qui ne prie pas, c'est parce qu'il pense que le divin n'a pas de présence chez lui, dans sa vie, dans son monde. Et à partir du moment où je m'adresse à lui, je lui donne une place. À chacun de concevoir quelle est la place qu'il attribue. C'est ce qu'on appelle la Avodat Hashem. Lorsqu'on parle du service divin, Avodat Hashem. C'est de ça qu'on parle. Lorsque ça m'est imposé, j'ai pas d'avodat Hashem. C'est pas moi qui ai introduit le divin. C'est le divin qui s'est introduit en moi, malgré moi. La limite entre eux, le fait que ce soit imposé, ou le fait que ce soit moi qui l'attribue, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Vous avez quelqu'un qui échappe à un accident de voiture. Il a réussi à traverser le désert. Alors il fait la bracha, Agomel le Chayavim Tovot, il remercie Akadosh Baruch Hu. Ça c'est moi qui fais pénétrer le divin dans une aventure qui en elle-même ne peut avoir rien de divin. À partir de quand c'est quelque chose qui s'impose à moi? La ligne, elle est tellement floue qu'il y a des gens qui pensent toujours que le divin s'impose à eux, alors que c'est eux qui introduisent le divin. On dirait qu'à la limite, ce qu'on appelle la Shrina, la présence divine, plus je sais l'imposer, et moins elle a besoin de s'imposer. Mais d'un autre côté, moins elle a besoin de se cacher non plus. Donc on va assister au fait que plus on l'impose, et plus elle s'impose. La Gemara raconte une histoire. Lorsque les Chachamim devaient aller à Rome, ils ont demandé que ce soit Rabbi Nachum Ish Gamzu qui aille. Shu Melumad Benissim. Lui, il avait l'habitude des Nissim. Pourquoi est-ce qu'il avait l'habitude des Nissim? Parce qu'il percevait toujours que ce qui lui est arrivé, ça venait de la présence divine. Donc il n'y avait plus besoin que cette présence divine se cache, puisque la seule raison pour laquelle elle se cache, c'est pour me donner la liberté d'avoir ma avoda. À partir du moment où je l'ai, j'ai plus besoin de tout ça. On va donner un exemple très simple. Agma dans sa vie nous raconte. Il y avait trois Moraïm, les rédacteurs de l'Agma. Rava, il était un, Rav Yosef. Ibrahilou, Eglat il Taé, de Harvé de Shabbat. Le Shabbat, il s'asseyait pour manger. Et il créait un veau. Les commentateurs font remarquer qu'il n'est pas marqué que eux créent. Marqué Ibrahilou, ils se créent à eux. Il est écrit dans certains signes de Kabbalah que ce veau, ça n'était pas un veau. Mais il est rassasié comme le veau. Qu'est-ce que ça peut me faire si c'est un vrai veau? Ou s'il est rassasié comme le veau? Imaginez-vous, voilà. Vous allez à table, vous avez envie de tomates. Il y a des tomates. Vous avez des concombres? Il y a des concombres. Est-ce que c'est important maintenant que ce soit ce qu'on fait pousser dans la terre ou alors que ce soit quelque chose, ça a le même goût, ça nourrit de la même façon, mais ça n'en est pas. Si les commentateurs veulent dire ça, ça veut dire que il n'y a pas besoin d'arriver jusque-là. On n'a pas besoin de savoir quelle est la structure du concombre pour pouvoir soi-même créer du concombre. Parce que si on avait besoin de retrouver ça, ça voudrait dire que ça a une importance, alors que ça n'en a pas. Voici, je me fais bien comprendre. Alors, on va réexpliquer. La grand-mère dit Rabbi Hanina, lorsqu'il n'avait pas de l'huile pour allumer ses bougies, il les allumait avec du vinaigre. Ce qu'il disait, celui qui a dit à l'huile de s'allumer, il faut se dire au vinaigre de s'allumer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'arriver à trouver une texture qui va donner telle et telle réaction chimique pour que les choses existent. C'est pire que ça. Parce que les choses, elles existent. Et pour que moi, je ne puisse pas y retrouver la présence divine, alors il y a toute une texture et plein de lois naturelles qui font que je crois, moi, qu'on est obligé de passer par là pour pouvoir vivre. Mais si je dis « Aharetz Adom Raglam », c'est-à-dire que Dieu réagit et conduit le monde selon la situation où il se trouve, à l'air des gens pour lesquels on n'a pas besoin de passer par tout ça. Donc il s'établit le Rav Shabbat. Il fallait manger. Alors vous avez un veau pour manger. Ça ressemble à du veau. C'est pas du veau. Parce que si ça devait être du veau, ça voudrait dire que la terre n'est pas Adam Raglav. Elle est quelque chose d'indépendant par rapport à la présence divine qui fait que les choses existent. C'est faux. Si j'arrivais, moi, à déterminer le lien de toute chose, je n'aurais pas besoin de les vivre d'une façon matérielle pour qu'elles existent. Aller plus loin encore. Nous, on va dire, ça n'arrive qu'aux autres. C'est des histoires. Mais c'est pas vrai non plus. Pourquoi? Il est écrit dans la paracha de Kitavo. Tachat asher lo avadta et Hashem Elokecha besimcha. Toutes les malédictions, tous les malheurs qui t'atteindront, on prend là-bas de toutes les malédictions, ça vient tachat du fait que Asher lo avadta et Hashem Elokecha, tu n'as pas fait ta avodat Hashem. On n'a plus besoin de traduire maintenant. Le simcha. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas que tu n'as pas fait. C'est pas que tu n'as pas fait les mitzvot, mais tu n'as pas fait le simcha. Ok. En quoi la simcha est tellement importante que on a besoin de redresseurs de situation pour nous mettre au pas? Il écrit dans les Sfarim deux exemples. Le premier exemple, c'est si on disait à quelqu'un, voilà, tu sais que un jour il va falloir vieillir, il va falloir mourir. On a un remède. Bizarrement, des gens travailleraient toute sa vie, toute leur vie pour se payer le remède. Et celui qui aurait reçu le remède, il n'aurait pas de plus grande simcha que de savoir qu'on ne peut pas le stopper. On ne peut pas l'arrêter. On va aller même plus loin. Il serait d'accord de sacrifier les 120 ans de sa vie pour ça. Après, il y en a qui courent pendant 120 ans pour moi que ça. Et avec joie. Quand on te dit que la mitzvah c'est ça, tu ne crois pas. Parce que si tu le croyais, alors tu n'aurais pas d'autre joie que de faire la mitzvah. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est la différence entre quelque chose qu'on me prête et quelque chose qu'on me donne. Si on me prête quelque chose, je l'utilise et je le rends. Bizarrement, si on me donne la même chose, je suis tout content. Pourquoi? Simplement parce que ça m'appartient, parce que c'est déposé chez moi et pas chez l'autre. Pourquoi? Au contraire, on a un arrière-goût. Si quelqu'un me prête sa Rolls-Royce pour un jour, je vais passer toute la journée à regretter qu'elle n'est pas à moi. Alors que s'il la donne, nous nous sommes persuadés que ce que nous utilisons dans tout ce monde-ci, ça nous est donné. Mais si on était persuadé que ça nous est prêté, alors où est-ce qu'on trouverait la joie que quelque chose nous appartient? Puisque la différence entre le prêt et le don, ou l'acquisition, c'est que du fait que ça m'appartienne, je peux me mesurer par rapport à cette valeur. Alors quand ça ne m'appartient pas, je suis un usurpateur à la rigueur. Donc la joie que j'ai d'avoir quelque chose à moi, c'est parce que ça me donne la valeur de cette chose-là. J'ai peut-être pas beaucoup, mais j'ai ça. La mitzvah, c'est la même chose. La mitzvah, c'est la seule chose qui m'est donnée. Tout le reste, ça n'est que prêté. Et lorsque je fais une mitzvah, je transpire l'ennui et la difficulté. Alors que lorsque j'acquiers quelque chose d'autre, je suis tout content parce que ça me donne une valeur. C'est ça qui est marqué Tarat Asher Bavata et Hashem Elokecha Besimcha. Ça veut dire que la mitzvah perd de sa valeur à partir du moment où on ne réussit pas à mesurer sa valeur. Comment est-ce qu'on va faire pour que ce soit Besimcha? Parce que nous, on va parler que de ceux qui font les mitzvot. Tout le monde fait les mitzvot. Tachat Asher Lavat et Tachat Elokecha. Besimcha. On dit tout ça, ça va t'arriver pour t'apprendre à faire Besimcha. Ça veut dire m'apprendre à faire Besimcha. Tout ce qui peut m'arriver dans la vie, ça ne peut pas m'ôter mon maître. Ça ne peut m'ôter que mon avoir. Et tout ça, c'est des prêts. Comment est-ce qu'on arrive à considérer les choses comme ça? Vous savez que lorsqu'on dit Amen, après une bracha, ce sont les initiales de Kel Meler Neeman. Dieu est un roi Neeman, dans lequel on peut avoir confiance. Moi, je n'aurais pas parlé de ça. J'aurais dit, il est grand, il est fort. Dans la Mida, on ne parle pas d'Eman. Agadol, Agibor, Anora. Dans lequel on peut avoir confiance. Et bizarrement, on emploie le mot Neeman pour une chose. Venez Manata. Le Achayot Meti. Tu es crédible lorsque tu dis que tu feras revivre les morts. C'est quoi? Alors maintenant, on va essayer d'introduire une notion. Néman, ça veut dire crédibilité. Je ne peux pas comprendre ce mot crédibilité si je n'ai pas des exemples sur moi-même de ce que c'est que la crédibilité et de la force que ça donne. On va dire même pire que ça. Et de l'existence que ça donne. Si moi je suis quelqu'un de Néman, quelqu'un en qui on peut avoir confiance totalement, ça veut dire que j'ai compris que vis-à-vis de l'autre, je suis crédible. Pourquoi ? Parce qu'il peut compter sur moi entièrement. Néhémanout. On peut compter sur moi. Si quelqu'un pense qu'on peut compter sur lui, on va dire tout simplement, il est. Avant, il n'est pas. Avant, il veut. Il aime. Il haït. Il a tout, mais il n'est pas. À partir de quel moment il est, à partir du moment où il est crédible sur quelque chose. Lorsqu'on dit dans l'Amida que Dieu est Gadol, Dibor, Noah, fort, tout ça, c'est des choses que l'on perçoit. On le perçoit comme ça, on le perçoit comme ça. On a parlé de ce sujet-là, on peut le percevoir du côté passif comme du côté actif. Mais c'est des choses qu'on perçoit. Lorsqu'on dit que Dieu est Néman, ce ne sont pas des choses qu'on perçoit. Ce sont des choses qu'on est obligé de poser. Parce que l'être n'existe pas sans ça. Et ça, on ne peut le percevoir que sur soi-même. Si quelqu'un est lui Néman à 100%, alors il comprend que Dieu est Néman à 100%. Il ne peut pas envisager autre chose. Puisque c'est comme ça qu'il va définir pour lui Dieu, Néhémanout. C'est quelqu'un sur lequel je peux compter. De même que moi, par rapport à l'autre, je n'existe que de cette façon-là, par rapport à l'idée, par rapport à n'importe quoi. Je suis le tenant d'une idée, si j'y tiens jusqu'au bout. Si je suis Néhéman de cette idée-là, alors j'existe par rapport à cette idée-là. Si je suis Néhéman par rapport aux autres, alors j'existe par rapport aux autres. Sinon, je suis obligé de manifester mon être par de la voix. Je veux ci, je veux ça, je n'aime pas ci, je n'aime pas ça. On va aller plus loin encore. Vous savez que dans l'Agma, dans le traité de Sanhedrin, il est écrit que le Mashiach ne viendra que dans une génération. Okulo Zakai, Okulo Chayav. Une génération qui est ou entièrement Zakai, ça veut dire méritoire, méritant, ou Kulo Chayav, ou entièrement déméritant. Il y a deux interprétations. Il y en a qui disent qu'il s'agit de la même génération. C'est pas que c'est deux générations différentes. Dans une génération, les gens sont ou comme ça ou comme ça. Il y a deuxième interprétation qui dit non. Ou tous les gens de la génération seront méritants, ou tous les gens de la génération seront déméritants. Vous allez voir qu'il n'y a aucune différence entre les deux appréciations. Demande le Maharal de Prague, une génération où les gens sont méritants, je comprends qu'on envoie le Mashiach. Mais lorsque les gens sont déméritants, comment est-ce qu'on envoie le Mashiach? Alors il dit que c'est le sens de ce qui a marqué que le Mashiach, il est Rochev al-Khamor. Il se tient sur un âne. Il n'est pas obligé de penser qu'il y a un âne. Il est gris. Rochev al-Khamor, ça veut dire que c'est quelque chose qui soutient le Mashiach, c'est quelque chose de simple. Chamor. c'est celui qui n'a pas besoin de jour. Il faut le pousser parce qu'il n'avance pas. Il va droit à la maison. C'est pour ça que les Rachem ont toujours l'exemple que Chor le hol et Chamor le massa. Le Chor, le bœuf, il avance, mais il a besoin de diriger. Le Chamor, l'âne, il n'a pas besoin de diriger, il sait où aller. Il n'avance pas, il faut le pousser. Rochev al Chamor, il dit, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une direction. Que ce soit dans le bien ou dans le mal, il est entier avec lui-même. C'est pas que il va une fois par-ci, une fois par-là, il faut le diriger. Ah, il va dans le mal, il va entièrement. Il va dans le bien, il va entièrement. Ça veut dire qu'il est Néman. Il existe quelque part. On peut exister par rapport au bien, on peut exister par rapport au mal. C'est ce qu'on appelle la Némanout. Il Maharal, celui qui va entièrement dans quelque chose, c'est qu'il est très proche de ce qu'on appelle le tikkun. On peut l'arranger en une seconde. Pourquoi? Parce que lui, il s'est foncé. Alors, il fonce pas bien. C'est la mauvaise direction. On va le remettre dans la direction. Mais il fonce. Lorsque on est moitié-moitié, on peut rien faire. Donc, on voit que les deux interprétations, elles sont les mêmes. Parce que ceux qui ont interprété, qui disent que c'est une génération où tout le monde est comme ça, ou comme ça, ou comme ça, c'est-à-dire quoi? Où chacun est entier. C'est ça qu'un jour, quelqu'un est venu, il a demandé à un rabbin qui s'appelait le Beit HaLevi. Pourquoi à chaque fois, lorsqu'il y a une bagarre entre les religieux et les non-religieux, c'est toujours les non-religieux qui gagnent? Ça ne veut pas d'aujourd'hui, ça veut déjà dire. Il a dit parce qu'eux, ils sont béhémètes. Il a dit, comment on peut dire autre chose comme ça? Il a dit, oui, eux, c'est des Rochaïm, ils sont vraiment Rochaïm. Mais nous, on est une fois Racha, une fois Tzadik, une fois comme ça, une fois comme ça. Ça ne fait pas un bon combattant, ça. L'autre, il est ce qu'il est, mais il est béhémètes. Il est jusqu'au bout, jusqu'au fond de son cœur. Nous, on n'est pas entièrement. Ce qui n'est pas entièrement, il ne réussit pas. Ça, ce qu'on appelle l'année, Manout. Le fait qu'on n'ait pas de simcha, c'est parce qu'au fond, on ne vit pas avec ces critères-là. Que le fait, c'est d'être. Et que c'est ça ce qu'on recherchait à Kadosh Baruch Hu. En tout cas, c'est comme ça qu'on le perçoit. Qu'est-ce que c'est que la bracha? La bracha, c'est fait pour pouvoir percevoir ça. La bracha, c'est fait pour que quelqu'un ait des moyens. C'est ce qu'on appelle la bracha. On a besoin de moyens. Pour être. Mais si ces moyens ne sont pas utilisés pour être, et qu'on confond l'acquisition et le prêt, et que là où on vous prête, c'est plus important que là où on vous donne, alors cette bracha, c'est plus une bracha. Tout le monde a besoin de moyens. Il n'existe personne qui peut vivre sans moyens. Le comble de la bracha, c'est quoi? C'est qu'on ait tous les moyens automatiquement. On est des tomates qui n'ont pas besoin d'être des tomates. On peut avoir un veau, il n'a pas besoin d'être un veau. Si l'illusion de me nourrir, ça me nourrit. Si tout problème c'est d'allumer une bougie, c'est pas grave que ce soit avec du vinaigre. Mais nous on peut pas supporter d'allumer une bougie avec du vinaigre. comment on peut le supporter? Alors on peut pas. Alors la bracha, elle s'en va. Parce que si c'était tellement facile d'allumer le bougie avec du vinaigre, et que ça sentait aussi bon que l'huile, et c'était aussi pratique que l'huile, pourquoi est-ce que le monde n'a pas fait qu'on allume avec du vinaigre? Parce qu'il doit y avoir des inconvénients. Parce que la nature est bien faite. Mais nous, on ne sait pas vivre avec ces inconvénients. On n'en veut pas. Si quelqu'un lui dit, tu sais, je vais te donner une voiture. Elle ne marche pas tout à fait bien. Mais dans la majorité des cas, elle s'allume. Mais on ne veut pas. C'est nous-mêmes qui nous adaptons aux choses parce qu'on pense qu'elles sont essentielles. Et on perd la némanout, on perd le fait que Dieu soit crédible. Pire que ça, Agmar elle dit, les tzadikim perdent au lavaba parce qu'ils n'ont pas de simcha. Parce que même quelqu'un qui a un tzadik, il peut tout perdre. Parce qu'il n'arrive pas à avoir présent à l'esprit ces choses-là. Ces choses-là, ça s'appelle la Shrina. Quelquefois, le bon Dieu, il essaie d'imposer ça à quelqu'un. Et l'autre, il fuit. Et plus il fuit, et plus on va lui imposer. Pourquoi? Parce qu'il a décidé, il faut absolument du vinaigre. Lui, ça ne veut pas, il ne veut pas. On a droit à la qualité de la vie. C'est là où commencent les problèmes. L'Agmara a dit ceci. Arezumi katne amana. C'est quelqu'un qui n'a pas de emuna, qui n'a pas de foi. Pourquoi? Yeshlo pas de salaud. Aujourd'hui tu as. Ok. Il ne faut pas prendre l'Agmara dans sa traduction littérale qui est puisque j'ai aujourd'hui, j'ai demain, j'ai rien à faire. Il y a quand même 1 milliard sur 5 qui vont pas. Il n'y a pas de raison que je ne fasse pas partie aussi. La plupart des commentateurs expliquent que la Gemara, il faut la prendre dans ce sens-là. Celui qui est perturbé dans sa avoda, parce qu'il a besoin pour demain, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'émouna. On ne te dit pas que tu ne dois pas te soucier, mais tu ne dois pas être perturbé par ça. Ça, c'est une des choses les plus difficiles. Pourquoi? Parce qu'on est perturbé. Parce qu'on a un schéma dans la tête. Et que si je n'ai pas aujourd'hui, d'où j'aurai demain? Et si on me donnait une fois pour 10 ans, ce serait tellement plus pratique. Agmara, elle est pire que ça. Elle dit, c'est quoi le comble de la klala qui est marquée dans la Torah? C'est à somer la palter. Il est obligé d'acheter du pain, il ne sait pas faire son pain. Qui dit que demain le boulanger va lui donner du pain? Ça aussi, c'est un souci. Alors quand on parle du pain, c'est pas seulement le pain, c'est parce qu'on ne peut pas tout faire, on n'est pas capable. J'aurais pas ça, je suis dépendant des autres. La bracha, c'est de pouvoir être indépendant des autres, tout en indépendant des autres, en comprenant que ce que l'autre me donne, c'est pas parce que lui a décidé de me donner, c'est pas que j'ai affaire avec lui. En vérité, j'ai affaire avec le bon Dieu, parce qu'il est né Eman. Ça, c'est une des choses les plus difficiles. C'est ça ce qu'on appelle l'aïmouna. Ça ne veut pas dire que la bracha ce soit J'ai tout ce qu'il me faut, j'ai tout selon les critères qui sont les miens. Mais selon les critères qui sont ceux-là, Kadosh Baruch Hu. Si toi, tu sais qu'on peut avoir confiance en toi, parce que tu sais que il y a des choses que tu ne feras jamais, une injustice, quelque chose de mal à l'autre, il est évident que tu vis avec la Shrina, ta Avoda, elle est dans ce sens vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Alors de quoi t'as peur? On a peur parce qu'on a décidé qu'il y a une forme de vie qui est plausible, qui est correcte pour nous. On ne veut pas de vinaigre pour les mecs. Donne-moi de l'huile. On ne veut pas de vinaigre. C'est ça ce qu'on appelle la Avoda. Maintenant, on va essayer de comprendre quel est ce sens des Kohen. Les Kohen, ils viennent, ils font une bénédiction, tout le monde la connaît, Yivarecha, Hashem, Vishmarecha, Yahashem, Pravelecha, Vikoneka, etc. Yivarecha, ça veut dire on te donne la bracha. La bracha, ça veut dire que tu es les Kelim, que tu es ce qu'il te faut pour ta conception, pour la façon que tu as de faire résider la Shrina. Mais c'est à moi de la trouver. La différence entre celui qui rêve et celui qui vit dans la réalité, c'est qu'au moment où il rêve, il échappe aux perceptions qu'il connaît. Il a des perceptions qu'il ne connaît pas, qu'il ne sait pas maîtriser. Ce qui emprisonne quelqu'un, c'est sa perception des choses. Je sens, je touche, je comprends, j'entends. Mais moi j'ai d'autres perceptions encore que celle-ci. Sinon, je ne les connais pas. Donc je n'arrive pas à vivre de façon disciplinée avec elles. On appelle ça le rêve. C'est pour ça que dans un rêve, un homme n'est ni bon ni mauvais. Tous les critères moraux, les critères de société échappent au rêve. Parce que c'est notre perception des choses. Le Birkat Kohanim, la bracha, le fait qu'on donne à quelqu'un ce qui est exactement adapté à ce dont il a besoin, ça veut dire qu'on demande à Kadosh Baruch Hu ce dont j'ai besoin. Pour ma avoda à moi, c'est le genre de choses que je peux percevoir dans un rêve. Celui qui fait un rêve, Nafsho Aguma Alam, ne se sent pas bien. Pourquoi? Parce que il remet le rêve dans le contexte des choses qu'il connaît. La Gemara dit qu'il y a des rêves prémonitoires. On n'arrive pas à se situer avec ça. Parce qu'on n'a pas une perception normale de ces choses-là. Comment est-ce que je vais faire pour le remettre dans l'ordre normal des choses? C'est que je ne peux rêver qu'une chose qui est adaptée à moi à 100%. Le Birkat Kohanim, pour celui qui a fait un mauvais rêve ou qui a peur de faire de mauvais rêves, c'est ça sa solution. Il est marqué Varechacha Hashem, Vishmarecha, il te donne la bracha, et il te garde. Il te garde de quoi? Dans mon agma, minamaziki. On peut te donner des choses, mais elles se cassent au fur et à mesure. Ça vient de notre perception à nous. C'est parce qu'en réalité, c'est nous qui les cassons. C'est nous qui croyons qu'on est obligé de vivre de telle et telle forme, et d'une autre forme on ne peut pas vivre. Alors on enlève la bracha. La relation qu'on a par rapport au verre, c'est cette relation-là. C'est pour ça qu'on dit que le Birkat Kohanim, ça enlève les mauvais rêves. Celui qui a fait un mauvais rêve, il dit, il attend que ce rêve soit de toi. C'est une chose que je ne comprends pas, je ne perçois pas. Mais je sais que ça fait partie de moi, de mon monde, de ce dont j'ai besoin, et ce que je perçois vraiment. Ah, moi, avec mes sens, je perçois autre chose. C'est pas grave. Je dois pouvoir me mesurer à ça. Lorsqu'on demande au Kohanim de bénir le clan d'Israël, c'est que tout le monde demande, qu'est-ce qu'il y a besoin de ça? Tout le monde lui envoie la bracha, qu'est-ce qu'il y a besoin des Kohanim? Parce que marqué veut Samouet Shemi al Bnei Israël. Notamment, ils mettront mon nom sur le peuple juif. Va ni avarchem, moi je les bénirai. Si il y avait que le bon Dieu pour donner la bracha, on l'attribuerait jamais au bon Dieu. Ça commence à prendre la forme de Samouet Shemi. Il y a le nom de Dieu dessus. Parce que c'est quelqu'un qui m'a dit que j'aurais une bracha. Et comme il a invoqué le nom de Dieu, alors ça prend la forme de ce qui vient d'Akadosh Baruch. Mais sinon, je ne trouverai pas ce lien-là. La preuve, c'est que le monde est fait pour que je ne retrouve pas ce lien. Ce que Moshe Rabbeinu a demandé. Tzadik veralo, le tzadik, il arrive des malheurs. Et le rachat tovlo, il a toutes les brachot du monde. Tu n'as pas compris que le tzadik, en vérité, c'est les brachot qu'il a. Et le rachat, c'est le contraire. Non, on ne comprend pas. On ne comprend pas parce qu'on n'arrive pas à s'extraire de cette forme de vie-là. Et c'est une chose qui est difficile, ça nécessite une avoda, ça nécessite un travail. Et ça, c'est le travail de toute une vie. C'est-à-dire qu'on arrive à comprendre que je vais chez quelqu'un, je lui demande une bracha. Après, s'il se réalise ce que j'ai, je l'attribue à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi c'est comme ça? Parce que j'ai un repère. Sinon, je n'ai pas de repère. Si c'est donné par Dieu directement, on n'a pas de repère. La preuve, le monde est gentil avec les méchants, il est méchant avec les gentils. Comment percevoir qu'il n'est pas méchant avec les gentils? Si soi-même on est Neyman, si soi-même on sait que l'être dépend de ça, alors tout doucement, on peut le comprendre chez le bon Dieu. Quelquefois les gens vous disent, pourquoi la vie est si dure? Et tu sais, finalement, je travaille beaucoup moins que le PDG de chez Renault. Je risque beaucoup moins. Il risque la prison à chaque moment. Il risque d'être kidnappé à chaque instant. J'ai une belle vie. Je dis, écoutez, mettez-moi PDG chez Renault, qu'on verra déjà. Ça veut dire que quoi? Qu'on a des critères qui sont des critères objectifs, mais qui doivent être des repères pour des enfants. Un enfant est obligé de donner ses repères, parce qu'il faut bâtir à partir de repères. Mais à un moment, on doit pouvoir s'extraire de ces repères-là. Ça, c'est le travail de l'homme. C'est comme ça qu'il fait résider la Shrina dans son monde. Ve'aretz Adam Reglam. Le bon Dieu a les pieds sur terre. C'est-à-dire quoi, les pieds sur terre? Ce que tu vois, c'est lui. C'est pas possible. C'est trompé. Ça va pas. Si on vivait comme ça, on verrait toujours de Simcha. Et je vous en donner la preuve. Il y a des mitzvot qui sont très difficiles à faire. Ils demandent une grande énergie. Ils demandent des grands sacrifices. Et les gens les font. Ils se demandent exactement la même quantité, mais c'est pas une mitzvah, ils font pas. Pourquoi? Quelle différence? Est-ce que tu sais où se situe la mitzvah? Non. On a des formes qui sont encore les formes enfantines des choses. Même Moshe Rabbeinu, il avait encore ça, puisqu'il a demandé ça à Kadosh Baruch Hu. Ça délivrera l'orage avec le commencement. C'est-à-dire qu'ici, la présence divine ne s'impose pas, c'est moi qui dois l'imposer. C'est ça ce qu'on appelle l'avoda. Le sens du Mishkan, le sens qui existe dans le peuple juif, ce qu'on appelle le Beit HaMikdash, c'est pour pouvoir en retirer des morceaux qu'on pourra mettre dans sa propre vie. Ça qui est marqué « Vasuli Mikdash »« Veshachanti Betocham » au milieu de pas au Beit HaMikdash. Dieu ne réside pas au Beit HaMikdash. Il réside à l'intérieur de la personne. Parce que si la personne s'imprègne de ça, alors ça reste dans la personne. Tant que tout va bien, qu'on a une belle vie, que les choses sont faciles, alors on croit qu'on a la bracha. Mais il faut savoir que la plupart du temps, il ne faut pas dire que c'est le contraire vraiment, mais ça peut être souvent le contraire. C'est que si quelqu'un s'arrêtait et il se demandait est-ce que j'ai vraiment la bracha, il verrait qu'il n'a pas la bracha du tout. Parce qu'il court après ceux qui l'éloignent justement de cette perception des choses. C'est ça le sens d'aller demander une bracha. On va demander chez un tzaïk de demander une bracha. Ça marche ou ça ne marche pas. Le Kohen est dans une bracha. C'est pour que nous puissions percevoir que les choses qu'on reçoit, on n'est pas allé demander une klala, donc c'est pour le bien. Ça doit nous habituer à penser qu'en vérité tout ça vient de la bracha. Ah, s'il faut rectifier le tir, alors on parle de klala au milieu. Les Chachamim disent Shuv yom echad bifnei motcha. Tu dois faire tshuva un jour avant de mourir. Personne ne sait quand il va mourir. Donc il faut faire tous les jours. Ok, j'ai bien compris. Mais il y a une chose qu'on ne comprend pas. Pourquoi Yom Echad? Pourquoi un jour? Il suffisait de me dire, Chouv, Lif, Nemotra, fais tu vois avant ta mort. C'est pas grand dire, fais tu vois tout le temps. Pourquoi Yom Echad? Pourquoi un jour? Pourquoi parler de jour? On a compris le sens. Il est écrit dans le Mirta Meliaou. C'est la raison pour laquelle il y a marqué un jour. C'est parce que si chaque jour, un homme pensait que c'était le dernier, alors il aurait tout à fait une autre vie. C'est ce qui est marqué Yom Echad. Donc on ne peut pas penser qu'on est à la dernière seconde, ça va trop vite. La dernière heure, ça va trop vite, alors on te donne un jour. Pense que c'est le dernier jour. Si on était sûr que c'est le dernier jour, on vivrait les choses tout à fait autrement. C'est même pire que ça. Parce que c'est possible qu'il n'y a que le dernier jour que les gens vivent vraiment. Ils s'aperçoivent que pendant tout le temps, ils n'ont pas vécu. Alors c'est ça la Etzah des Chachamim. Pourquoi tu attends le dernier? Shuv yom echad. Dis-toi que chaque jour c'est le dernier. Alors les choses, elles prennent un autre reflet. C'est pour ça qu'il y a marqué Shlomo HaMelech. Il dit dans le Yeshet Chayil, Vatisrak le Yom Acharon. elle rira le dernier jour. C'est quoi le Yom HaCharon? C'est que le Yom HaCharon, on doit pouvoir être réjoui de ce qu'on est. Ah, j'ai dit, c'est bizarre. Le Yom HaCharon, normalement, ça ne va pas très bien. Quelqu'un est malade. On peut souffrir. C'est le Batisrak. On doit rire. C'est évident pourquoi. Parce que le Yom HaCharon, on se rit de tout. Quelqu'un lui dit que tu as encore quelques instants à vivre, c'est sûr qu'il y a énormément de soucis qui s'en vont. Il y a énormément de problèmes qu'on voit autrement. On va dire alors, c'est macabre, ça veut dire que chaque instant, hein, ici il y a marqué que c'est ça la simcha. Paradoxalement, c'est seulement comme ça qu'on peut être possible. Pourquoi? Parce que là, on voit ce qu'on possède et ce qu'on vous a prêté. Là, il n'y a plus de feinte. C'est très difficile, pourquoi? Parce que si on parle de la cravate ou du costume ou des chaussures, on comprend qu'on me les a prêtées. C'est pas grave. Mais on vous prête aussi des enfants, on vous prête un conjoint, on vous prête des parents, on vous prête la santé. Ce n'est pas des petites choses qu'on prête. On parle de ce prêt-là. Tout ça, c'est des prêts. La mitzvah que j'ai faite, on n'a pas prêté la moi. Là, je peux mesurer ma valeur à travers cette chose-là. Parce qu'on ne m'a pas prêté, c'est à moi. C'est à moi que je peux me définir. Encore une fois, celui qui pense que c'est simple, il n'a pas besoin de vivre. Parce que c'est pour ça qu'on vit. Pour apprendre ça. Donc on ne doit pas penser que c'est simple. Sinon c'est des mots. Mais c'est ça le sens de la bracha. C'est-à-dire que le monde dit, il vous prête. Mais nous-mêmes, dans ce qu'il prête, on n'est pas content. On veut ceci, on veut cela, on veut un autre prêt, on veut cela. Pourquoi? Parce qu'on croit qu'il s'agit d'avoir. Mais si on était sûr que c'est un prêt, c'est pas si grave. On peut faire avec. Un jour, je suis allé visiter un rave qui était malade. Je lui ai dit, vous souffrez pas trop. Il m'a dit, je vais te raconter une histoire. Un jour, il y a un électricien qui est venu chez moi pour faire des réparations. Il m'a dit, il me manque tel outil. Alors, je vais repartir, je vais revenir. Il m'a dit, tu sais, quand un électricien vient, il ne faut jamais le laisser repartir. Parce que tu sais qu'il ne revient pas. Alors tu lui as dit, bon, j'ai pas le même tour de ce que vous, mais j'en ai un petit, ça servira. La pince, elle n'est pas comme ça, mais elle est comme ça, ça servira. Alors tu m'as dit, quel travail vous me faites faire, c'est pas comme ça qu'on travaille, c'est pas... Qu'elle a fait, elle a quand même terminé son travail. Il a souffert. On lui demande ce qu'il souffre. Il n'a pas exactement ce qu'il veut. Il ne souffre pas pour ça. Pourquoi? Parce que c'est pour son travail. La santé aussi, c'est comme ça. Alors, tu n'as pas le tournevis qu'il faut, tu n'as pas... Bon, on s'arrange avec ce qu'il y a. C'est pas pour ça qu'on va souffrir. Et souffrir, c'est autre chose. Et c'est quoi souffrir? Souffrir, c'est quand on voit des gens qui sont méchants. Quand on voit qu'il fait une vera. Ça, c'est une souffrance. n'arrive pas à faire quelque chose, une mitzvah qu'on voudrait faire. Ça, c'est une souffrance. Mais ça, c'est pas une souffrance. On s'arrange avec ce qu'on a. C'est difficile d'avoir cette conception des choses. Mais c'est ça la définition de l'avoda. C'est-à-dire que lorsqu'on prie, lorsqu'on demande, on demande pour sa avoda tachem, pour sa propre avoda. On ne demande pas simplement pour l'avoda. Quand on dit à Tachon et Landat, chacun veut être intelligent. On prie pour la palinsa, pour la refoua, pour tout ça. Il faut savoir que le sens de ce qu'on demande, d'avoir la bracha, c'est d'avoir l'ustensile pour. C'est une notion qui n'est pas facile. Elle n'est tellement pas facile qu'on doit se sentir évoluer et voir les choses tout doucement comme ça. Mais la plupart des gens, ils n'arrivent, même avec ça, ils n'arrivent pas à évoluer. Parce qu'ils disent, bon, allez, l'année dernière c'était dur, maintenant cette année ça ira mieux. On doit sortir de l'enfance. On doit sortir des repères qui sont des repères simples. On a besoin de ces repères simples, sinon on ne sait pas situer. Celui qui ne sait pas où il est bien, où il est mal, il ne sait pas ce qui fait mal et ce qui fait bien. Ce qui fait plaisir, il n'a rien compris. Donc on est obligé de passer par là. Mais c'est seulement qu'on est obligé de passer par là, pas plus que ça. C'est-à-dire que la bracha n'est pas toujours où on pense. C'est à soi de voir là où elle est. À ce moment-là, les structures, elles sont différentes. On n'a plus besoin de toutes ces structures. Et si on va plus loin encore, on va se rendre compte que de simples objets, que le commun des mortels regarde comme des objets qu'il ne peut que avoir, qu'on ne peut que lui prêter, à partir du moment où on leur a donné tout leur sens, ils peuvent prendre le sens d'être aussi. Pourquoi je vous dis ça? Moi, je raconte. Il y avait un homme qui s'appelait Rabbi Yochanan Ben Berota. Qu'est-ce qui est spécial sur Rabbi Yochanan Ben Berota? Il a vendu une vache à un non-juif. Le non-juif, il est venu après le Shabbat, il lui a dit, qu'est-ce qu'il a ta vache? Elle ne veut pas travailler le Shabbat. Alach velachash la beozna. Il lui a dit quelque chose à l'oreille, il lui a dit, tu verras, samedi prochain ça marchera. Alors, qu'est-ce qu'il a dit à l'oreille? Il a dit, Machar ti rotach le goy. Je t'ai vendu un non-juif. Ben, moi, raconte. L'âme de Rabbi Pinchas Ben Yaïr. Il est allé chez Rabbi, Rabbi Yehuda Nassi. Il a donné du foin, il n'a pas voulu, parce qu'on n'avait pas pris le maaser. Il n'a pas voulu manger. Il est marqué le bâton d'Elisha. Le prophète Elisha. Il a donné son bâton. Il a dit à son employé qui s'appelait Gehazi, va, tu prends le bâton, tu vas le mettre sur l'enfant, il va revivre. Il est marqué dans le passouk là-bas dans Melachim. Ça n'a pas marché. Mais là, j'ai dit, pourquoi ça n'a pas marché? Parce que Gehazi, pendant tout le chemin, il montrait le bâton à tout le monde. Il dit, vous voyez quelque chose? Vous voyez qu'on peut faire quelque chose avec ce bâton-là? Alors, ça n'a pas marché. Parce qu'il croyait que c'était le bâton. Ça veut dire que si le monde a créé les choses de telle façon, c'est pas anodin non plus. Il existe une forme dans les choses qui n'est pas seulement celle du prêt. que les choses elles prennent leur vraie valeur. Alors on raconte à propos de Shmuel. Il est marqué Umi'il Katan Astaloïmo. Avec ce meil, elle y avait fait un vêtement. Avec ce meil, il est rentré au Hamoël. Et avec ce meil, il a été enterré. Il a dit, c'est pas grave, c'est un vêtement qui grandit avec l'enfant. Il a gardé son manteau toute sa vie. Il avait un manteau spécial. Les commentateurs disent, sa mère, lorsqu'elle a fabriqué le manteau, elle a mis tout son cœur, elle a mis toutes ses larmes dedans. Et l'objet en lui-même, il a pris une valeur. C'est-à-dire que non seulement je peux arriver à donner le sens à travers les choses, mais si les choses sont faites de telle façon, c'est pas par hasard non plus. La même chose on dit à propos de Noir. Il lui a demandé de construire tout seul la Théba 120 ans. Alors j'ai dit pourquoi il n'a pas demandé à ses fils. On peut l'aider, un vieillard, il va travailler pendant 120 ans. Ses fils, ils avaient construit la Théba, elle aurait sombré. Il fallait quelqu'un qui croit. Il fallait quelqu'un qui mette toute sa personne, toute son âme là-dedans. Ça veut dire que les choses en elles-mêmes, elles peuvent prendre. Ça, c'est le vrai sens de la bracha. C'est-à-dire, c'est pas des trucs. C'est que les choses en elles-mêmes, elles prennent leur vraie valeur. Si quelqu'un étudie un petit peu le Mishkan, il va voir que tous les ustensiles, c'est pour donner une vraie valeur aux choses. Tout ce qu'il y avait dans le Mishkan, c'est pour donner une vraie valeur aux choses. Alors c'est trop long d'expliquer, mais c'est comme ça. C'est ce qui est marqué ici. Le peuple juif, il a une existence parce qu'il sait faire fonctionner ça. Comment ? C'est ce qu'on appelle Milchamta Shel Torah. Ça veut dire qu'il a un ustensile qui lui permet de donner la vraie valeur aux choses. Alors, il s'est mis à un exemple, il dit parce qu'il y a marqué Shishim Giborim. Alors, on parle des Kohanim. Non, sûrement des questions. Ouais.
Pourtant, on a l'impression des fois que la bracha est associée à une forme d'abondance, hein, parce qu'on voit Yitzhak faire la bracha, il faut qu'il ait vraiment pas ses constructions avec la primaire. Quand on voit la halta et sa vata, quand on voit le ventre, on n'a pas dit il faut manger et faire la bracha, il faut avoir le ventre plein. En plus, alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que des fois, cette idée d'abondance auprès de la bracha.
Je vais vous dire. D'abord, ce qui est marqué, c'est sa vata. Qui sera rassasié, si vous prenez les chiourimes qui ont été donnés, c'est que Betsa, il faut se contenter de peu. Mais c'est vrai qu'il y a un sens comme ça. Si quelqu'un considère qu'il doit être libre pour la Avodat Hashem, alors le must du must, c'est d'avoir tout ce dont on a besoin pour ne pas être obligé de penser à ça. Ça c'est le must. C'est ça le sens, comme ça dit le Ramban, Yitzhak Avinu. Il y a marqué Babur Tevor Chene Nafshi. Pour que le spirituel puisse exister, il ne faut pas avoir faim. Il faut qu'on ne pense plus aux choses de ce monde. Ça c'est le must. Mais on n'est pas obligé de trouver la bracha rien que là-dedans. On va dire ça, c'est les critères objectifs de la bracha. C'est les critères objectifs. Mais c'est pas obligatoire. parce qu'il faut savoir quoi faire avec ça aussi. Objectivement, ce serait le mieux. Ça veut dire si on donne à quelqu'un des moyens, il peut aider le monde entier, il peut faire plein de choses. Mais quelquefois, c'est pas bien pour lui non plus. T'as des gens pour qui c'est pas bien. Il y en a qui en donnent, ils thésaurisent, ils donnent pas aux autres. Bon, il va faire mauvais investissement. Donc on ne peut pas mettre des généralités. Lorsqu'on regarde les formes, alors on prend cette forme-là, parce que c'est la forme la plus simple. Si on regarde un peu plus au fond, Rabbi Yehuda, ainsi celui qui a rédigé la Mishnah lorsqu'il est mort, il a levé ses mains au ciel, il a dit « L'on est neti meolamazé ketzbaktana ». Je n'ai jamais joué de ce monde-ci, même comme le petit doigt. Ah, pourquoi il a reçu tellement ? Comprenez, c'est comme le banquier. Les enfants, ils se demandent, pourquoi la banque a tellement d'argent ? Mais la banque, elle n'a pas d'argent pour les autres. Il faut savoir aussi, savoir quoi faire, en quoi c'est une brache. C'est pas évident. On a dit à propos de la matzah, il y a marqué Hashem Tzilcha. Hashem Tzilcha, ça veut dire Dieu c'est ton ombre. Ça veut dire non. Comment tu te situes, lui se situe. Si quelqu'un il se met dans une position par rapport au soleil, il n'y a pas d'ombre. Il n'y a plus d'ombre. Selon que tu conçois les choses, le bon Dieu les conçoit pour toi. Plus un homme est petit, plus le bon Dieu est petit avec lui. Pour ça qu'à Pessah, quand le peuple juif est arrivé, même Tetchar et Touma dans les 49 portes de la pureté, c'est des gens très petits. Alors, il faut faire attention même à un petit bout de ramette. Quand tu es petit, le bon Dieu aussi est petit. Quand on est grand, hein, le bon Dieu est grand. On voit pour le Maaser. Il est marqué Maharim Imala Maaser. On a le droit de faire des passes droits avec le maaser. Pourquoi ? Parce que quand tu donnes, on va dire, regarde pas non plus. La lacha elle est. Il faut amener le maaser chez à Yerushalayim pour le manger. Si tu veux le racheter, il faut ajouter un cinquième. Alors, la Gemara dit, Marie, madame, Albeno Avdo, il prend son serviteur ou son fils, il lui rachète le maaser. Donc il n'a pas besoin d'ajouter un cinquième. Et comment c'est permis ? Son fils est pour lui. Son serviteur, c'est pour lui. Il m'a dit, Marie, mais madame, c'est allez, on ferme les yeux. Le commentateur, il explique, Rabbi Tzadok, à quoi de l'oubli, il dit comme ça. Il dit, pourquoi ici ? Il dit, tu es large, tu donnes la main à serre. Bon, Dieu aussi, il est large, tu regardes pas. Quand on est petit, le bon Dieu fait attention à tout. Quand on est grand, le bon Dieu fait attention à tout. On fait plus large. Donc ça dépend comment on voit les choses. Les gens qui voient les choses en grand, on peut leur donner grand. Ceux qui voient les choses en petit, il faut leur donner en petit. Parce que sinon, on est obligé de rendre des comptes. Il y en a un qui s'appelait Reichmann. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Il a perdu les trois quarts de sa fortune. On a demandé pourquoi. Il a dit qu'il n'a pas donné assez. Oui, combien il a donné ? Il a donné 2 milliards de dollars en 20 ans. Et comme il n'a pas donné le Chomesh, un cinquième, je pense. C'est pour ça qu'il est bon. Il dit, bon, c'est bon pour le moral. Mais il faut pouvoir le dire. C'est déjà pas mal.
On a Néman qui a dit qu'en fait, Néman, on était en recharge. Il semblait que la Némanoute...
Dans la Rishoute.
Dans la Rishoute.
Ouais.
Il semblait que la Némanoute ne se dissociait pas de l'Irat Hashem. L'Irat Shamayim.
On va dire, si on regarde la némanoute en tant que positive, comme nous on appelle ça tout le temps, alors évidemment, ça n'a pas d'intérêt. Mais si on regarde la némanoute en tant que possibilité de rédemption, alors celui qui est racha et qui est jusqu'au bout, il colle avec ses idées. Il existe par rapport à ses idées. Même si c'est des idées du mal, mais il existe par rapport à son idée. À partir du moment ou on change l'idée, il change aussi. Alors que celui qui ne colle pas par rapport à son idée, on change l'idée, il ne changera pas, puisqu'avant, il avait la bonne, et il n'arrivait pas non plus à se situer par rapport à cette idée-là. Vous comprenez? C'est le sens de ce qu'a dit le prophète Élie. Eliad Matayatem Posrim Alchtia Seipi. Jusqu'à quand vous allez vous asseoir entre deux chaises? Im la balle, la balle. Im Hachem, Hachem. Comment tu peux dire une chose comme ça? Si la balle, la balle. Qu'est-ce que ça veut dire? Sûrement pas. Si tu penses, alors fais-le. Mais au moins fais quelque chose. Im Hachem, Hachem. Mais celui qui est au milieu, c'est le pire. Ah, j'ai pas dit qu'il a une simcha, moi.
Ah,
bah t'as dit que servir des simchas
pour avoir la
bracha. Madame,
ici
on parle du côté du
tog. Si on est néman dans la chose, il n'y a plus d'œuvre
ici.
Si on peut changer.
Qu'est-ce que je vous dis? C'est peut-être pas l'expérience. J'espère. Peut-être que le rachat n'est jamais entièrement rachat. Surtout un juif. Comme c'est dit Rabbi de Kotsk. Rabbi de Kotsk, c'est dit un juif. Même quand il fait une avéra, il n'arrive pas à goûter parce qu'il pense toujours à la tchoua. Ça lui casse la avéra. Ils disent pas grave, je serai tchoua après. Mais rien que de penser à la tchoua, ça lui casse déjà le. Si on vivait comme on rêve, on aurait tout le temps la bracha. Ouais.
La question, c'est toujours sur la bracha. Est-ce qu'il faut clarifier le concept de Kéli par rapport à la bracha?
Le concept de Kéli, il est très très simple. C'est-à-dire que j'utilise des moyens. La bracha, c'est ces moyens-là. Maintenant, les moyens peuvent être très 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 divers. Être très divers. Ils peuvent être catalogués comme négatifs quelquefois. Et ça ne veut pas dire que je me suis fait avoir. Parce que c'est nous qui cataloguons ça comme négatif. Mais en vérité, on pourrait faire avec aussi. Et on pourrait faire bien avec aussi. C'est aussi un Kéli. Pourquoi nous, on préfère ce côté-là? Parce qu'un Kéli, il y a le Kiddush Hashem, alors que l'autre, il y a le Kiddush Hashem. Quand ça va pas, c'est un Kiddush Hashem. Pourquoi? Parce que les gens ils disent quoi? C'est celui-là. Fais les mitzvot et puis le monde est. C'est vrai. Mais ça c'est déjà. Parce que il y a le pire du pire. Quelqu'un qui doit mourir al Kiddush Hashem. Il y a un Kiddush Hashem dedans. Vous comprenez? C'est que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a vu ce qui se passait avec Rabbi Akiva, il a dit Zout Rav, Zout Rara. C'est pas parce qu'il avait Rachmanou pour Rabbi Akiva. Il n'avait pas pitié pour Rabbi Akiva. D'abord, il faut savoir que c'est marqué dans le Maram de Rothenburg. Le Tshuva de Maram de Rothenburg, il dit que tout celui qui est prêt à donner sa vie pour le Kiddush Hashem, il devient insensible à toutes les souffrances. Il le prouve de certains endroits, et après il dit, on a vu nous-mêmes, pendant les croisades, où des centaines de milliers de juifs ont été torturés, qu'on n'a jamais vu les gens ni pleurer, ni rien du tout. Ils faisaient le chemin, alors qu'ils étaient en train de brûler. Il dit, n'importe qui, on y verrait avec le doigt sur un briquet, au moins, il crie. Et là, non. La même chose en même, un qui s'appelait Rabbi Avraham Halevi, qui faisait partie des Megourachés Sfarad, ceux qui ont été exilés d'Espagne, qui dit que c'est comme ça qu'on a Kabbalah et Pidish, et il dit qu'il y a une raya. Pourquoi? Parce que il y a un juif qui a été arrêté par l'Inquisition, et on l'a suspendu par une jambe pendant je ne sais pas combien de jours. Et après on a réussi à le faire évader. Il a dit qu'à partir du moment où il savait qu'il allait mourir, il n'a rien senti pendant tout ce temps-là, il n'a eu aucune douleur. Donc lorsque Moshe Rabbeinu, il a dit sur Rabbi Akiva, parce qu'il y a marqué Vayu, Sorkim met le Sarog dans la Srikot chez le Barzel, on était en train de le torturer de la façon la plus horrible, il a dit Zutora, Zusrara, ça veut dire que dans chaque Hilou Hashem, il y a un Hilou Hashem. Le Hilou Hashem, il est. Ah, c'est ça la bracha du peuple juif, c'est ça le destin du peuple juif. Pourquoi? Parce que le monde entier va selon des critères qui ne sont pas les vrais critères. Donc il existe un Hilou Hashem aussi. Ça, il faut savoir que c'est comme ça. Ok.